au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi 3 septembre, bienvenue à Lanaudière PM. Avec nous aujourd'hui, Pierre Paquette qui est de retour de ses longues vacances estivales. On va parler de souveraineté aujourd'hui avec Pierre Paquette, également à l'émission Doudou Show. Il est de Lanaudière économique. Il sera question d'immigration. Mathieu Bélanger sera avec nous, notre analyste politique. On va parler de la Cour suprême américaine versus les tarifs d'impôts de Donald Trump. Et pour débuter cette émission, on va parler de transport depuis l'affaissement d'un ponceau sur la 40 Ouest entre Berthier et la Noraie. Ben, les maires de la région de Lanaudière manifestent leur inquiétude en lien avec l'entretien du réseau routier. On a parlé hier d'ailleurs avec Jacques Plante de ce réseau routier qui est assez douteux dans la région de Lanaudière. Et François Morin a eu l'occasion de s'entretenir un peu plus tôt avec le maire de la Valtrie et préfet de la MRC de Dautré, Christian Goulet.
Alors, M. Goulet, donc, vos collègues du côté de la Noraie-Berthierville ont dénoncé là, ces derniers jours le mauvais entretien des routes dans la région, dans la MRC de Dautré, entre autres. Faites-vous la même lecture?
Bien, définitivement qu'on en fait la même lecture. Je pense que n'importe qui emprunte la rue Notre-Dame, la 138, que ce soit en auto, en vélo ou en moto, c'est très dangereux, puis elle n'a jamais été refaite. Et de plus, la partie de 7 km entre la Noraie et Sainte-Geneviève-de-Berthier, ce 7 km-là de route verte, a jamais été sécurisé. C'est un danger épouvantable. Et juste à penser à nos ponts. Hein, on a le pont d'autoroute de la 31 qui est à refaire. À la Valtrie, on a le pont de la Montée-Guimousseau qui est fermé. Pensons aux ponts sur la 158 entre Berthier et Saint-Ignace de Loyola. Ces ponts-là sont en très mauvais état. Les ponts pour aller à Berthier, qui sont fermés depuis des années. Écoutez, je pourrais vous en nommer la 347 pour aller à Saint-Gabriel, qui est épouvantable. C'est la problématique, c'est une problématique de budget du ministère du Transport. Le ministère du Transport a beau avoir beaucoup de bonne volonté, ça prend de la volonté des gouvernements pour allouer les budgets nécessaires à réparer nos routes.
Ce que je comprends, c'est que vous avez des problèmes également du côté de la Valtrie. Est-ce que aussi de votre côté ou ailleurs dans la MRC, on ressent les effets là, de la circulation qui a été modifiée à quelques reprises, des travaux sur l'autoroute 40, mais également le fameux pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine là, qui est pratiquement plus accessible. Il y a pas mal plus de véhicules lourds qui passent dans la région.
Oui, surtout, par contre, sur l'autoroute, qui a été quand même refait un petit peu l'année passée. Évidemment, quand on se retrouve avec l'incident entre Berthier et la Noraie, cet incident-là va amener beaucoup plus de circulation sur la 158 et sur la 138, qui est la rue Notre-Dame. Mais je vous dirais que ça prenait pas vraiment ça pour détériorer la rue Notre-Dame. On l'entend. Les motocyclistes refusent de passer par là. Les cyclistes refusent de passer par là tellement que ça s'est détérioré.
Évidemment, ça fait pas une très bonne publicité pour la région de la Lanaudière. Ce que je comprends de vos propos, c'est que le ministère des Transports a un peu les mains attachées en raison des budgets et d'un manque de ressources. Les relations sont quand même bonnes et comme le canal de communication demeure ouvert.
Moi, je vous dirais que le canal de communication avec le ministère du Transport, on l'a. La problématique, prenez l'incident sur la 40, par négligence évidemment d'entretien, oui, mais ce qu'il faut penser, ça a un impact sur le budget. Puis quand on parle d'un budget qui couvre la Lanaudière et les Laurentides, qui est vraiment minime, ben ce qui vient d'arriver ampute encore une fois le budget pour faire d'autres choses. Ça prend une volonté politique d'augmenter le budget dans la réparation de nos routes.
Dans cette perspective-là, dans cette optique-là, êtes-vous d'accord avec certains de vos collègues qui prônent la création d'une direction régionale distincte pour la Lanaudière?
Définitivement. Définitivement. On a une bonne collaboration avec le ministère du Transport, mais ça nous prend une direction régionale ici, sur le territoire. Les gens peuvent s'imaginer Laurentide et Lanaudière ensemble, la superficie et la quantité d'infrastructures qui se retrouvent sur ces deux territoires-là. C'est ingérable pour un seul bureau. Le ministère du Transport fait son possible avec les ressources qu'ils peuvent avoir au bureau, mais malheureusement, c'est des ressources très limitées.
Est-ce que la limite, c'est un dossier qui pourrait revenir parce qu'on est à un an des élections?
Ben oui, c'est un dossier qui pourrait revenir. Maintenant, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on en parle. Ça serait le fun que ça avance un petit peu. Vous savez, il y a même, on a samedi qui s'en vient, le 6 septembre, Lanoraie, le maire de Lanoraie, M. Villeneuve, organise une chaîne humaine. C'est de 9h30 à peu près à midi. Évidemment, c'est vraiment pas pour perturber la circulation, mais pour sensibiliser le gouvernement et tous les partis, c'est vraiment apolitique, à l'état de la rue Notre-Dame. Donc, puis j'invite les gens, parce que c'est un parcours de 7 kilomètres, il n'y a pas de marche, c'est une chaîne humaine, puis c'est vraiment pour montrer la solidarité des gens vis-à-vis la problématique de cette route-là. Ça fait plusieurs années qu'on se bat pour la rue Notre-Dame, puis pour sécuriser ça, ça a un impact pour toute notre région. Ben, il faut vraiment sensibiliser le gouvernement pour que le gouvernement décide d'agir sur ce tronçon-là.
Est-ce que les députés ont été invités?
Tous les députés ont été invités, indépendamment des partis, pour sensibiliser tous les partis à cette problématique-là. Et rien de mieux qu'être sur le terrain pour le voir.
C'était Christian Goulet, maire de la Valtrie. Donc, je vous le rappelle, cette chaîne humaine, samedi matin, du côté de Lanoraie, sur le chemin du roi, là, tout le monde se donne la main là, pour manifester contre l'état pitoyable de cette route. Ça n'a aucun sens. Et je suis tout à fait d'accord avec le maire de la Valtrie et préfet de la MRC de Dautry, là, Christian Goulet, lorsqu'il dit que Laurentide, Lanaudière, au niveau du MTQ, c'est trop grand comme territoire. Ça aucun sens, c'est ingérable. On devrait avoir une division Lanaudière et une division Laurentide. Le territoire est immense à couvrir. Alors, pouvez-vous vous imaginer le nombre de nids de poules qu'il y a à surveiller sur le territoire Laurentide-Lanaudière? Dans un moment, notre analyste politique Mathieu Bélanger, on va parler de la Cour suprême américaine.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Super Soir SNQL, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, épicerie Forêt et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonissoir Shell, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonissoir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
La route, la route, la route, l'écran, la route. L'écran, la route, la route, la route, la route, l'écran, le piéton qui traverse, le pare-brise qui craque, le piéton à terre, le piéton à terre, le piéton à terre. Vos yeux ne voient qu'une chose à la fois. Si c'est l'écran, ce n'est pas la route. Garder son attention sur la route, c'est juste la base. Un message du gouvernement du Québec.
Ménage Providence, votre partenaire de confiance pour une propreté sans bon sens. Vous rénovez? On nettoie. Après construction ou rénovation, confiez-nous le ménage et profitez de votre espace sans souci. Suivez-nous sur Facebook et appelez Ménage Providence au 450-750-9912. Oui, 450-750-9912.
Le marché authentique de Notre-Dame de la Merci vous invite au marché médiéval du samedi 6 septembre. Le marché se transforme en royaume. Animation grandeur nature et combat à l'épée. Duo traditionnel à cordes. Menu festif du 376 Bistrot Charcuterie. Dégustation du cocktail Le Druide. Décor en partenariat avec les médiévales de la Naudière, Fanion, Drapeau, Magie et Mystère. Plus de 20 exposants agroalimentaires et artisans des joies de la table. C'est un rendez-vous au 1900 Montée de la Réserve à Notre-Dame de la Merci le 6 septembre dès 9h30.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Thomas, Notre-Dame de la Merci, Saint-Jacques, Saint-Sulpice.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Ici, les chansons américaines, c'est comme les marques américaines. On n'en consomme pas.
La Naudière PM. Politique internationale.
La Cour suprême des États-Unis est appelée à statuer sur les pouvoirs qui sont détenus par la présidence du pays. Débat qui découle de la décision, d'une cour d'appel fédérale qui estime que les tarifs douaniers imposés par Trump sont illégaux. Et notre analyste politique, Mathieu Bélanger, a échangé là-dessus avec François Morin. On écoute l'entretien.
Dans les diverses lois que le Congrès a adoptées, il y a des pouvoirs qui sont accordés au président, à la présidence, notamment en cas de crise grave existentielle pour les États-Unis. Et c'est ces clauses-là que Donald Trump a évoquées, a utilisées pour justifier que qu'il avait le pouvoir de mettre de l'avant des tarifs douaniers. D'ailleurs, il l'a rappelé avec le jugement de la Cour d'appel aux États-Unis vendredi dernier, qui déclarait illégal ces droits de douane-là mis en place par Donald Trump. Selon lui, ben si on ne maintient pas les droits de douane, les États-Unis vont devenir, je le cite, un pays du tiers-monde, ça va détruire les États-Unis. La raison qu'il évoque, et il y en a plusieurs, mais notamment, on sait par rapport au Mexique et par rapport à nous au Canada, la question du fentanyl, même si tous les experts sont d'accord pour dire qu'il y a pratiquement pas de fentanyl qui passe au Canada aux États-Unis, mais bon, c'est la raison qui est évoquée. Et aussi le déficit très important, ça c'est vrai par contre, des États-Unis, des déficits budgétaires. Et donc, Donald Trump voit ces entrées d'argent-là qui peuvent arriver, selon lui, par les tarifs douaniers, comme une façon de pallier justement ces déficits budgétaires-là et donc préserver la relative saine gestion économique du pays. Donc, c'est l'argument qui est évoqué. Pour l'instant, les divers tribunaux, parce que c'est pas le premier tribunal qui se prononce là-dessus, n'ont pas retenu cette explication-là. Là, on est à la Cour d'appel. Il manque la Cour suprême. Donald Trump a demandé à ce que la Cour suprême se prononce rapidement là-dessus. Donc, faut voir, à quel point la Cour suprême va se ranger aux arguments de Donald Trump ou pas.
Et justement, la Cour suprême a donné raison souvent par le passé à Donald Trump dans plusieurs dossiers. Il y a des gens qui se font pas vraiment d'illusions.
Dans les prochaines semaines, les prochains mois, les quelques prochaines années, il y a plusieurs tests, parce qu'il y a plusieurs procès qui sont ou plusieurs causes qui vont être portées devant la Cour suprême des États-Unis concernant les pouvoirs que Donald Trump peut ne pas avoir comme président des États-Unis. Celui-ci en est un, parmi d'autres. Par exemple, il y a eu des décisions dans les derniers jours, pas encore à la Cour suprême, ça va y aller éventuellement, mais quelle autorité le président a-t-il pour déployer des troupes au sein même des États-Unis, comme il l'a fait récemment à Los Angeles? À quel point qu'il peut congédier ou non des gouverneurs de la Banque centrale américaine, la Fed, aux États-Unis? Donc, juste pour donner ces deux exemples-là, il y a plusieurs causes, et on dit souvent que dans le régime politique américain, le système qu'on appelle en anglais de checks and balance, de poids et contrepoids, il y a les pouvoirs qui peuvent se limiter les uns les autres pour s'assurer, c'est ça l'objectif dans le départ fondateur des États-Unis quand ils ont rédigé cette constitution-là, pour empêcher qu'un pouvoir puisse dominer complètement les autres. Donald Trump cherche à étendre le plus possible les pouvoirs de la présidence. Ben, on va voir si la Cour suprême est capable, elle, de rabaisser ça ou pas, ou si contrairement à la volonté finalement des pères fondateurs des États-Unis, la Cour suprême se range et accorde à la présidence un pouvoir beaucoup plus grand que ce qu'on a connu par le passé. C'est des tests importants. Oui, on a vu dans les derniers temps certaines décisions de la Cour suprême qui ont surprise et qui semblent plutôt favorables à Donald Trump. Mais dans d'autres cas, on a vu aussi une certaine réticence à donner trop de pouvoir à Donald Trump, d'être capable de dire non quand même. Il n'y a pas une tendance claire qui a émergé à date. Il y aura des thèses dans les prochains temps, finalement, qui vont permettre de déterminer est-ce que la démocratie américaine est préservée ou est-ce qu'elle devient beaucoup plus en difficulté.
Est-ce que le temps joue en faveur de Donald Trump parce qu'on arrive déjà à la mi-mandat?
Le temps joue toujours pour la présidence, et c'est vrai là. On arrive bientôt, effectivement, dans un an aux élections de mi-mandat, à l'automne prochain, l'automne dans un an, et ces cas-là, souvent, c'est long, passer les divers processus judiciaires pour aller jusqu'à la Cour suprême, qui elle-même risque d'être beaucoup sollicitée au courant des prochains temps. Est-ce qu'on aura des décisions d'ici l'an prochain? C'est un gros point d'interrogation. C'est difficile de prédire ici, puisque la Cour suprême peut surprendre parfois. On a vu que Donald Trump a profité de la lenteur parfois du système judiciaire américain avant les dernières élections, alors qu'il a été poursuivi pour divers crimes, et que il a réussi à prolonger les délais jusqu'aux élections. Et finalement, ces procès-là ont été, pour la plupart, abandonnés. Il est habitué de jouer de la montre pour prolonger les choses. Et donc, ce serait pas étonnant que s'il s'attend à avoir des décisions défavorables, qu'il utilise la même stratégie. Reste à voir. Les électeurs auront un mot important à dire, c'est sûr, dans un an. En fonction des élections, est-ce qu'il donne plus ou moins de pouvoir à Donald Trump par l'entremise des élections du mi-mandat, les élections du Congrès? Et après, il restera un autre 2 ans, 3 ans à partir de maintenant, avant les prochaines élections présidentielles. Donc, il y a beaucoup de dossiers, peu de temps quand même, avec toute la lenteur que ça peut avoir. Mais parfois, la Cour suprême peut aussi surprendre et arriver à des décisions relativement rapidement. C'est ce que Donald Trump a demandé dans le cas pour la Cour suprême, dans le cas des tarifs douaniers. Donc, reste à voir maintenant ce que la Cour suprême va faire.
Je vais me permettre une petite écartade. On tombe pratiquement dans le potinage, mais il y en a qui se sont inquiétés et qui s'inquiètent toujours de la santé du président américain.
Effectivement, ça a beaucoup sorti dans les derniers jours dans les différents médias, notamment à cause de certaines taches là, sur la main de Donald Trump qu'on a pu voir sur certaines photos. Évidemment, il n'est plus jeune, on le sait, à près de 80 ans. Les médecins disent, parce qu'on sait que le président américain, peu importe l'identité de la personne, est très suivi par des médecins à la Maison-Blanche pour avoir un bilan de santé. Les médecins disent que Donald Trump a une relativement bonne santé pour quelqu'un de son âge, aussi avec son poids. Lui-même dit qu'il va très bien, mais entre ce qui est dit et la réalité, il peut y avoir une marge, et de toute façon, surtout, plus on est vieux, plus évidemment les choses peuvent se dégrader rapidement. Donc, il y a toujours un questionnement là, à quel point il va être capable de compléter son mandat ou pas, ne serait-ce encore une fois à cause de son âge. Rappelons évidemment que si pour une raison ou une autre, il ne pouvait pas compléter son mandat, ça serait le vice-président J.D. Vance qui deviendrait immédiatement président. C'est le genre de choses à surveiller, c'est le genre de choses qui peut bousculer complètement le paysage politique américain, par le fait même mondial. Mais pour l'instant... il dit qu'entre autres que c'est à cause de certains que les tâches par exemple sur la main, c'est à cause du nombre de poignées de main qu'il donne et de la prise là de cet acétaminophène. Reste à voir là aussi, mais pour l'instant il semble capable d'exercer ses fonctions dans la mesure que Donald Trump peut le faire, et certainement que le potinage va continuer à ce sujet-là, c'est sûr et certain. C'est un des sujets de prédilection des Américains, de parler de l'état de santé de leur président, surtout quelqu'un qui est plus vieux comme ça. Pas de raison de penser que ça va arrêter au cours d'ici la fin du mandat, finalement, de Donald Trump.
Bon, c'était notre analyste politique, Mathieu Bélanger. Il est 16h25. On vient d'apprendre que celui qu'on pourrait qualifier de père des cégeps au Québec, le sociologue Guy Rocher, témoin important et acteur important du 20e siècle au Québec, là, est décédé aujourd'hui. Il avait 101 ans. Il y a des générations d'étudiants qui vont se souvenir de son livre phare, Introduction à la sociologie générale, un ouvrage qu'on peut qualifier d'incontournable des études en sciences humaines. Ça a été traduit en 6 langues. La Révolution tranquille était à peine en marche et Guy Rocher a participé à ce moment-là aux travaux de la commission Parents là, pour réformer l'éducation. Les travaux de la commission ont conduit à la création du ministère de l'Éducation en 1964 et par la suite à la création des cégeps en 1967. Donc, décès du sociologue Guy Rocher à l'âge de 101 ans aujourd'hui. Et tout porte à croire que le premier ministre Legault sait déjà quel changement il va apporter là, à son conseil des ministres à l'approche d'un remaniement très attendu à Québec. L'actuel ministre de la Santé, Christian Dubé, l'a dit cet après-midi. Il dit que le premier ministre Legault a bien pris le temps de rencontrer les députés puis ses conseillers au cours de l'été là, pour se faire une tête là, sur son remaniement ministériel. On écoute Christian Dubé.
Ben écoutez, je peux pas, je suis pas dans sa tête là. Mais j'ai beaucoup de respect pour le premier ministre qui a annoncé ses couleurs très clairement au mois de juin. Rappelez-vous là, pourquoi les gens ont dit ça? Je pense qu'il a voulu prendre le temps de réfléchir avec ses députés. Avec ses ministres, avec ses conseillers.
Voilà, il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, je remarque, on est pas mal nombreux là, à partir de Bourget, même qu'on lève le pied. Ça demeure passablement dense jusqu'au boulevard Henri Bourassa. Pour la suite, ça va bien pour atteindre Charles de Gaulle et franchir la rivière des Prairies. Repentigny, 40 Est, on circule sans problème. Pont-le-Gardeur, approche facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame, 25 Nord. Dans ce secteur de la jonction avec la 440, Terrebonne, ça va très bien. Pont-Sophie-Marie, on circule sans problème en ce moment et autoroute 640 entre la 25 et la 40 direction ouest, ça va en direction ouest, un peu dense à l'approche de la montée des pionniers. Pierre Jubinville sera là dans un moment avec l'actualité.
La route, l'écran, la route, l'écran. Le piéton qui traverse, le pare-brise qui craque, le piéton à terre. Vos yeux ne voient qu'une chose à la fois. Si c'est l'écran, ce n'est pas la route. Garder son attention sur la route, c'est juste la base. Un message du gouvernement du Québec.
Tout l'été à la terrasse chez Dona, profitez des spectacles gratuits présentés sur la terrasse extérieure.
Ce samedi, place au folk lanaudois avec la formation Au Renard. Anciennement de Lower Body Injuries, Au Renard est un groupe folk de chez nous qui offre des compositions en français ainsi que des reprises variées en français et en anglais avec une touche originale bien à eux. Découvrez leur univers festif ce samedi 6 septembre.
Terrasse chez Dona, 190 rue Laurent à Saint-Jean-de-Mata. Réservez vos places au 450-886-2519 ou au terrassechezdona.com.
Jean de Lanaudière, ici Simon Mercier qui vous souhaite une bonne rentrée. Et surtout, n'oubliez pas que pour acheter ou vendre, c'est...
Simon Mercier, courtier immobilier résidentiel
et commercial.
Puis, commencez-vous à la connaître?
Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, Joliette.com.
Le grand Pierre Jubinville est là pour nous livrer l'actualité, il est 16h29.
Bonjour,
Pierre,
Claude.
On va débuter avec un retour sur une histoire qui a bouleversé le Québec, cette petite fillette de Granby.
Oui, ça fait déjà 6 ans que la fillette a été tuée et la coroner a déposé et commenté son rapport d'enquête. Guéane Kamel ne peut malheureusement pas assurer qu'un drame similaire ne se reproduira pas.
Tout le monde doit porter son bout de blâme dans cette situation-là.
Pour Jeanne Kamel, le drame de Granby est un échec collectif. La DPJ, l'école, mais aussi la police et le médecin ont travaillé chacun de leur côté, ce qui a laissé des dizaines de drapeaux rouges sans suite. Le travail en silo est donc sa plus grande critique, mais elle réclame aussi l'ouverture d'un registre national des enfants suivis, en plus des ressources nécessaires pour que les intervenants puissent travailler convenablement. Un constat que partage la grand-mère de la victime.
Tout le monde a du sang sur les mains, en réalité, là.
La dame promet d'ailleurs que la petite ne tombera pas dans l'oubli.
Il faut tourner la page, faut que la vie continue. C'est sûr qu'on ne l'oubliera jamais.
Après toutes ces années, plusieurs autres enquêtes et deux condamnations criminelles, la coroner vient clore le dossier public de cette affaire et elle écrit directement à la fillette.
Même si on a échoué collectivement, j'espère sincèrement que tu vas trouver un certain repos.
Annie Guillemette, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Évidemment, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a été appelé à commenter ce dur constat. Il assure que les 12 recommandations formulées par la coroner sont mises en application.
C'est un constat sévère sur la société, là. J'accueille son rapport humblement. Je tiens à lui dire que ses recommandations seront appliquées. Je vais travailler avec tous les ministres concernés, avec Mme Hill, la directrice nationale. Puis il faut qu'on continue à faire mieux pour nos jeunes.
Bon, maintenant, Pierre, bonne nouvelle, les travaux progressent sur la 40.
Oui, ils progressent et on a même terminé en direction ouest, pas sûrement à cause du beau temps. Le ministère des Transports nous informe que les travaux de remplacement entrent maintenant dans leur dernière phase. Ça se fera en direction est et ça commence demain, mais demain on annonce beaucoup de pluie, on verra,
oui.
Jusqu'au 14 septembre.
Et par ailleurs, le maire de la Valtrie et préfet de la MRC de Dautry, Christian Goulet, là, qui est solidaire avec les maires de la région là, sur l'état des routes.
Oui, il fait la même lecture que ses collègues de Berthier et Lanoraie sur l'état de dégradation de la route 138, entre autres. Et l'incident récent sur la 40 est venu amplifier le problème. M. Goulet souligne aussi l'état des ponts et viaducs.
L'usine de la Bridgestone. Ah oui, on va écouter, oui, M. Goulet.
Oui, avant, oui.
Je pense que n'importe qui emprunte la rue Notre-Dame, la 138, que ce soit en auto, en vélo, en moto, c'est très dangereux, puis elle n'a jamais été refaite. Et de plus, la partie de 7 km entre Lanoraie et Sainte-Geneviève-de-Berthier, ce 7 km-là de route verte, n'a jamais été sécurisé.
Oui.
C'est un danger.
Ben, c'est tout à fait
épouvantable.
Un grand danger.
Je le disais tout à l'heure et je le rappelle encore, samedi 9h30, cette chaîne humaine là, du côté de Lanoraie. Parlons-en de l'usine de Bridgestone qui est toujours en pause, la Joliette.
Ouais, pas de nouvelles depuis dimanche. Les activités de production sont suspendues en raison d'une cyberattaque. Une note interne a été envoyée aux 1400 employés dans plusieurs usines d'ailleurs en Amérique du Nord, où elle serait aussi affectée à divers niveaux. On ne pense pas que les données des salariés, des clients ou les interfaces clients aient été compromises.
Une autre comparution majeure dans le dossier du fiasco de la SAC.
Oui, on est cette fois, c'est l'ex-secrétaire général du gouvernement, Yves Ouellet, qui est venu dire que l'ancien PDG de la SAC, Denis Marcellet, a menti lors de son témoignage. Il a expliqué qu'il n'a pas dit toute la vérité en effet. Affirmant qu'il avait clairement parlé des dépassements de coûts avec lui lors d'une rencontre tenue en septembre 2022.
Les voyants rouges auraient allumé. Il n'a jamais parlé de dépassement de coûts. Le tableau de bord au complet aurait allumé. C'est une évidence. C'est clair qu'il n'y a pas eu cette discussion-là.
On en parlait hier des fameux déboires de l'Agence de l'impôt du Canada et un comptable explique les fameux problèmes auxquels l'Agence d'impôt est confrontée présentement. Les comptables aussi sont confrontés à ça. Là.
Oui, ça leur donne des maux de tête. Ils sont coincés entre une clientèle désespérée par les longs délais de traitement et cette agence jugée, c'est le cas de le dire, un peu chaotique. Le comptable agréé André Boulet rapporte que certains dossiers peuvent prendre des années à être réglés.
Souvent, même les clients vont devenir un peu frustrés en disant « Tu le règles-tu le problème? » Moi, j'ai un dossier, ça fait 4 ans qu'on se lance la balle à l'agence. Puis dernièrement, on nous a dit « Ça va aller juste en janvier avant qu'on règle la problématique. » Ça s'est beaucoup détérioré, je dirais, à l'Agence du revenu du Canada depuis la pandémie. Avant, on avait quand même des bonnes relations. C'était assez rapide.
Et puis, en terminant rapidement, Pierre, on a rendu hommage à un couple de Terrebonne à l'Assemblée nationale.
Oui, Giuseppe Marinoni, 87 ans, et son épouse Simone ont reçu la médaille de l'Assemblée nationale. Monsieur Marinoni n'est pas un inconnu. Il a été champion cycliste de renommée internationale. Il est reconnu mondialement comme un maître artisan du vélo. Il a fondé son entreprise, les Cycles Marinoni, qui sont maintenant installés à Terrebonne. Monsieur Marinoni a fabriqué plus de 40 000 cadres de vélo, dont plus de 30 000 de ses mains. On écoute le couple.
Je suis très, très, très content de ça.
Puis, je pense pas que j'ai fait tant que ça pour avoir des médailles comme ça, par exemple. Ça, c'est sûr que j'ai changé ça. J'ai changé le Canada pour la bicyclette. Mais moi, je suis dans une famille des coureurs de bicyclette, par exemple.
Il a changé ma vie complètement parce que dans ma famille, c'est des sports motorisés. Je suis le mouton noir parce que moi, j'étais pas dans les sports motorisés. Ça a été toujours la seule chose qui a compté dans la vie, là, c'est des vélos, puis alentour de ça. C'est...
Ah, magnifique, le monsieur. Ouais, ça passe.
Bravo,
quelle passion.
Bravo,
hein?
À vous, ouais, deux.
Merci, Pierre Jubinville. Il est 16h36.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM, économie.
Ouais, ben malgré la confusion entre les gouvernements là, dans le dossier de l'immigration, le Québec et particulièrement Lanaudière constitue une bonne terre d'accueil. C'est ce que croit, du moins, là, Doudou Sault, qui est responsable du dossier de Lanaudière, responsable du dossier chez Lanaudière économique, dossier d'immigration. Et Régent Turgeon a eu l'occasion de le rencontrer pour en discuter avec lui.
Monsieur Sault, on entend beaucoup de choses concernant l'immigration au Québec et par ricochet dans Lanaudière. Chose que l'on entend, genre, on laisse entrer beaucoup trop d'immigrants, on manque de ressources pour les franciser, on manque d'espace pour les loger parce qu'il y a une crise du logement et parallèlement, on a fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Quel portrait dressez-vous de la situation dans Lanaudière?
Dans un premier temps, si on fait recours à l'immigration, c'est parce qu'il y a un besoin dans la région, notamment au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Et ce qu'on entend sur le terrain, ce sont que les employeurs sont en train de dire qu'ils ont besoin d'aide, d'appui, parce que sans l'immigration, il y a certaines entreprises qui vont être confrontées à une véritable pénurie de main-d'œuvre. Et quand on dit pénurie de main-d'œuvre, ça veut dire qu'on dit qu'il y aura un problème au niveau de la croissance économique. Okay. Mais aussi, la région de Lanaudière a réussi justement à avoir de plus en plus une bonne image, en fait, de l'immigration auprès aussi des personnes immigrantes. Et nous aussi, on a fait la sensibilisation auprès de la population locale sur les avantages de l'immigration. Mais en même temps, il faut regarder aussi le juste équilibre entre les besoins de main-d'œuvre, la capacité, en fait, de la région à accueillir des nouveaux arrivants en termes de logement, en termes de services de garde, en termes de santé. Je dois préciser, M. Turgeon, que les problématiques liées au logement, aux services de garde, ne sont pas des problématiques qui datent d'aujourd'hui. Ce sont des problématiques qui existaient avant parce que c'est un sous-financement chronique de différents gouvernements. Mais maintenant, ça s'est exacerbé avec justement une arrivée parfois aussi nombreuses en un laps de temps de personnes immigrantes. Mais les immigrants ne sont pas la cause de la problématique du logement. Mais par contre, un nombre plus important de personnes immigrantes peuvent exercer des pressions sur les services.
Est-ce qu'on doit être plus sélectif sur le nombre et peut-être la qualité des personnes que l'on accueille au Québec comme immigrant?
Vous savez, quand une personne immigrante arrive au Québec, son premier objectif, c'est de trouver un emploi à la hauteur de ses compétences et de ses qualifications. Donc, le premier outil d'intégration, évidemment, c'est l'emploi. Pour les enfants, c'est l'éducation. Mais l'emploi, évidemment, les employeurs doivent avoir la possibilité de continuer à recruter les travailleurs immigrants pour combler des problématiques de pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, il faut aussi se donner les moyens de nos ambitions. Il faut être capable de pouvoir les franciser, pouvoir les permettre aussi de trouver un emploi à ceux qui sont à Montréal et qui décident de venir dans notre région, mais un emploi à la hauteur de leurs compétences et qualifications. Il faut qu'aussi leurs enfants puissent avoir la capacité également de se loger, d'aller à l'école. Mais comme je dis, c'est un problème aussi qui concerne d'abord la population locale avant de concerner en fait les personnes immigrantes. Parce que la pénurie de logement, c'est une pénurie qui touche d'abord les locaux, les natifs, les Lanaudois, avant que ça touche en fait les personnes issues de l'immigration. Donc, il faudra trouver un équilibre justement pour éviter des frustrations de part et d'autre.
Un organisme comme Aminat à Terrebonne, que vous connaissez très bien, est-ce que cet organisme-là peut en faire plus pour accueillir nos immigrants? Est-ce qu'ils auraient besoin de plus de ressources?
J'étais à l'Assemblée générale d'Aminat la semaine passée, donc je pense que c'était mercredi, et j'ai participé aussi à une activité d'Aminat le samedi là, à Allô le Monde. Moi, les témoignages que j'entends des personnes immigrantes qui ont reçu les services d'Aminat, c'est que c'est des gens qui étaient vraiment très satisfaits de la qualité des services d'Aminat. Aminat en fait déjà beaucoup trop, parce que Aminat même peut aider au-delà même de ses capacités financières, parce que vous savez, les organismes communautaires comme Aminat, comme les autres organismes PASI, qu'on appelle Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration, qui sont financés par le ministère de l'Immigration, font un travail extraordinaire. Parce que quand on veut des milliers de vies accueillants, ce sont aussi ces organismes qui font la sensibilisation également auprès des MRC, avec aussi l'anodière économique dans son mandat également donné par le ministère de l'Immigration comme organisme pivot de régionalisation. Donc on fait la sensibilisation, on essaie même de faire des capsules vidéo avec des ambassadeurs de la diversité pour montrer à la population lanaudoise que ces gens qui sont ici sont bien intégrés, aiment bien la région, ont la région tatouée sur le cœur et aussi font justement un excellent travail, parce qu'ils contribuent aussi à l'économie de la région, ils contribuent aussi au développement social et culturel, parce que l'immigration c'est pas seulement un aspect économique, l'immigration aussi a une dimension culturelle, a une dimension sociale également.
Avez-vous croisé au fil des derniers mois, peut-être même des dernières années, des immigrants qui pensaient réaliser peut-être un rêve en arrivant au Québec, en voulant s'intégrer, en apprenant le français et tout ça, mais qui ont été déçus?
Oui. Il faut noter que l'immigration, l'intégration, je dois dire, s'améliore d'année en année, mais par contre, il reste toujours des défis, des enjeux. Effectivement, les gens qui arrivent, dans un premier temps, ils pensaient trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences dans les premiers mois. Ils réalisent que véritablement que ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il y a les difficultés reconnaissantes des diplômes et d'acquis, ils ne connaissent pas aussi les codes culturels, ils n'ont pas encore des réseaux de contact. Par contre, les travailleurs choisis directement par les employeurs depuis leur pays d'origine, eux, ils n'ont pas de difficultés pour travailler. Ils peuvent avoir des difficultés liées, par exemple, à la méconnaissance des codes culturels. C'est la raison pour laquelle la Nodir économique fait des ateliers de sensibilisation pour justement essayer d'éviter certaines frictions que ces travailleurs, comme aussi les employés québécois, peuvent aussi avoir et tout là. Donc, effectivement, il faut de l'accompagnement. C'est sûr, mais c'est sûr que il y a beaucoup de travail à faire également.
Au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, là, justement, pour améliorer peut-être le sort des gens qui ne trouvent pas leur compte ici au Québec encore?
Moi, je dis toujours franciser davantage également, et franciser mieux aussi, mais aussi également favoriser la reconnaissance des diplômes et des acquis. Mais c'est pas seulement le gouvernement, parce que l'intégration est une responsabilité partagée entre plusieurs acteurs. La personne immigrante, mais aussi le syndicat, la société civile, l'employeur également, les ordres professionnels, les institutions d'enseignement. Donc, comme je l'ai écrit même dans mon deuxième ouvrage, l'intégration de responsabilité partagée.
Voilà, c'était Doudou Saut de Lanaudière économique, et je peux comprendre le désespoir de certains immigrants qui arrivent au Québec et qui sont très qualifiés, surqualifiés même pour certains, avec par exemple un doctorat, et qu'ils n'arrivent, ces gens-là n'arrivent pas à pratiquer leur métier, doivent faire du taxi. Je veux pas dénigrer le métier de chauffeur de taxi là, mais c'est très embêtant pour ces gens-là, d'autant plus qu'on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines, par exemple la médecine. Bon, voilà. Dans un moment, on retrouve Pierre Paquette. Il sera question de souveraineté.
Vous avez des nouveaux services à offrir, un talent à partager, des conseils à donner, des chiens à promener, des massages à donner, des prothèses à fabriquer. Vous avez une bonne idée. Vous voulez vous lancer? Informez-nous, on le fera savoir. Venez vous faire voir. Visitez notreentourage.ca pour voir.
Jean de Lanaudière, ici Simon Mercier, qui vous souhaite une bonne rentrée. Et surtout, n'oubliez pas que pour acheter ou vendre, c'est...
Et commercial.
Êtes-vous tanné de l'entendre?
Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
Vous cherchez un entrepreneur pour tous vos besoins en climatisation, réfrigération, chauffage ou ventilation? Ne cherchez plus. Turcotte Réfrigération de Saint-Cuthbert, c'est plus de 30 ans d'expertise à votre service partout dans la Nosière et les environs. Résidentiel ou commercial, l'équipe expérimentée de Turcotte Réfrigération s'adapte à tous vos besoins. Sans oublier un service courtois et toujours personnalisé. Faites confiance à une entreprise familiale à meilleure marque. tels que Gree, Mouvert et plusieurs autres. Turcotte Réfrigération, 450-836-7009.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, Joliette.com.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre, t'as passé un bel été?
Oui, oui, toi?
Ah, pas mal du tout. Beaucoup de repos. Pierre, t'as voyagé cet été. T'es allé en France et particulièrement aussi en Corse. On va en parler dans quelques minutes, mais on va parler de souveraineté aujourd'hui puisque, bon, il y a eu publication d'un sondage CROP cet été qui oui. nous signalait que 56 % des 18-34 ans sont maintenant favorables à l'indépendance du Québec. C'est impressionnant quand même.
Oui, c'est quand même un revirement assez majeur. C'est le deuxième sondage, d'ailleurs, qui montre une progression de l'appui à la souveraineté parmi les Québécois en général, mais particulièrement les jeunes. Il y en a eu un en juin, un léger, qui montrait déjà cette tendance-là. Alors, c'est quand même impressionnant, et puis ça a besoin d'être expliqué, je pense.
Oui, ben dans l'ensemble, on dit 44 % des Québécois, là, tout âge confondu, sont favorables à l'idée d'indépendance, 56 % sont contre. Et auparavant, c'était chez les gens plus vieillissants où on était en faveur de la souveraineté. Et là, il y a eu un, je pense que c'est un retour de la balance, je comprends pas. Les personnes plus âgées sont contre l'idée de souveraineté et les plus jeunes sont en faveur maintenant. Et c'est à peu près la même proportion qu'on retrouvait lors du référendum de 95, là, pour les jeunes, du moins. Là.
Oui, mais quand même, il y a une augmentation de l'appui à la souveraineté, même chez les 55 ans et plus, mais c'est sûr que c'est pas aussi frappant que pour ce qui est des jeunes. Moi, je pense évidemment que ces gens-là sont, ceux qui ont 55 ans et plus, sont quand même rattrapables par le mouvement souverainiste, puisque c'est eux qui, en 95, avaient appuyé massivement le oui. Alors, je pense pas que c'est une cause perdue, mais on comprend très bien qu'en vieillissant, on est plus insécure, particulièrement au plan économique. On veut pas voir toute l'épargne d'une vie disparaître suite à des événements qui seraient, tragiques. Là. Ah. Alors, ça fait partie un peu de ça, tandis que les jeunes, ils ont moins de choses à perdre. Au contraire, ils ont tout à gagner, puis ils sentent d'ailleurs que c'est ça qui explique la montée de l'appui des 18-35 à la souveraineté, c'est qu'ils voient très bien avec ce qui se passe à Ottawa, face à particulièrement à l'administration Trump, qu'ils sont mal servis et donc peut-être d'avoir un levier plus direct comme l'État québécois pourrait les aider. Mais moi, je perds pas espoir que les 55 ans et plus reviennent au bercail.
Plusieurs peuples en Europe particulièrement veulent assumer leur indépendance. T'es allé en Corse cet été et on sait qu'il y a eu un mouvement indépendantiste assez solide dans les années 70, 80, 90 et ça se battait même. Là. C'est assez rough par moment. Il y a eu de la violence. Et comment ça se passe présentement le mouvement indépendantiste corse?
Je dirais que c'est plus le nationalisme corse qui domine. Il y a des indépendantistes, mais il y a des autonomistes aussi. Mais c'est eux qui dominent la scène politique. Là, c'est pas les pro-français qui dominent, c'est vraiment les autonomistes ou les nationalistes corses. La délégation de députés à l'Assemblée nationale française, c'est 3 députés sur 4 qui sont nationalistes. Alors, c'est quand même... Et il y a un projet de loi qui a été déposé le 25 juillet dernier, en 2025, pour donner plus d'autonomie encore à la Corse. Alors, je pense que ça donne de l'eau au moulin là pour le mouvement nationaliste et pour les indépendantistes aussi, mais ils sont extrêmement divisés. Il y en a qui sont extrêmement militants. Alors, il y a des graffitis partout contre le français. Nous autres, ça nous choque un peu parce que quand on arrive de voir, par exemple, que des rues, les noms français sont bûchés avec de la peinture, là. Mais bon, c'est une manifestation de ce nationalisme-là, de cette volonté d'indépendance. Ils comprennent très bien les Québécois, là, pour la plupart, ils comprennent qu'on n'est pas des Canadiens, comme eux sont pas des Français.
C'est ça.
Alors, c'est intéressant de ce point de vue-là. Puis beaucoup d'artistes québécois sont extrêmement populaires en Corse. Isabelle Boulay, par exemple, elle est vraiment, c'est une grosse vedette là-bas. Alors, non, mais je pense que la Corse comme telle n'a peut-être pas les moyens de l'indépendance comme le Québec là, mais certainement d'avoir plus d'autonomie pour protéger en particulier sa culture. Là, les jeunes et les moins jeunes sont vraiment très attachés à la culture corse. Partout on le voit, là, dans la musique, dans le théâtre, en tout cas, il y a une effervescence assez intéressante. Puis je pense du côté du gouvernement français, on comprend qu'on peut pas traiter la Corse comme une autre région de la France.
D'autres populations européennes sont assez autonomistes et en faveur de leur propre indépendance. On parle entre autres des Basques. Les Basques sont à cheval sur la France et l'Espagne, les oui. Catalans et l'Écosse qui pourraient aller vers un second référendum, là.
Oui, tout à fait. C'est ce que la première ministre écossaise a dit, que se dirigeait vers ça. Les Catalans, ils auraient été en mesure de faire leur indépendance. D'ailleurs, c'est la région la plus riche d'Espagne. Mais c'est le gouvernement central à Madrid qui a pris les grands moyens là pour réprimer le mouvement indépendantiste. Mais moi, je pense que c'est pas par la force qu'on arrive à réprimer des mouvements de libération comme ça. Alors, c'est encourageant de voir que un peu partout, même en Bavière, en Allemagne, il y a une forte volonté d'autonomie, c'est pas d'indépendance. Alors, je pense un peu aussi avec l'échec de la mondialisation telle qu'on la voyait dans les années 2000, la montée des mouvements nationalistes un peu partout, là, puis je parle pas des mouvements nationalistes identitaires, là, mais vraiment des mouvements nationalistes pour protéger les cultures, les langues, tout ça, se développe. Et puis c'est un peu ce qui explique aussi ici la montée des souverainistes chez les jeunes. C'est-à-dire, ils voient très bien que le modèle offert par le gouvernement fédéral face à l'administration Trump, ça donne absolument rien et ça nuit aux intérêts du Québec. Alors, c'est intéressant de voir que les jeunes font cette analyse-là. Bon, quand on était jeunes, nous, moi, en fait, c'était plus parce que la minorité anglophone nous dominait. Maintenant, c'est autre chose.
Bien, ce sera à suivre, et particulièrement du côté de l'Écosse. Rappelons que lors du référendum sur le Brexit, l'Écosse avait voté contre le Brexit.
Oui, parce que pour eux, c'est l'Europe qui est ouais. le terrain. Je sais pas, j'ai 30 secondes.
Rapide.
Claude,
oui.
Pour te signaler qu'un grand Lannaudois est décédé aujourd'hui, là, le sociologue Guy Rocher.
Oui, on en parlait tout à l'heure, oui.
Il était natif de Berthier. Moi, je l'ai très bien connu, et c'était un grand souverainiste aussi, qui s'était converti dans les années 60. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Merci, Pierre Paquette. Je te souhaite une excellente soirée. On se reparle bientôt, donc la semaine prochaine.
Okay. Bye, à lundi.
Nicolas Bellemare sera là prochainement pour vous présenter son 5 à 7 traite de l'autre côté de l'actualité de 17 heures. Et dans un moment, la vie dans la Naudière avec Hugo Valiquette. Restez là.